ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 3.8 MHz, Onde Femme, Radio Zone. La Lune dans vos oreilles, c'est tous les mercredis à partir de 18h30. Le remue-ménage s'est calmé et c'est la Lune maintenant jusqu'à 20h avec dans quelques instants les informels, c'est les nouvelles sur la pleine lune suivies des coups de cœur de Marjolaine et ensuite un programme musical Paroles et musique de femmes ce soir sur la pleine lune. Restez à l'écoute et je vous rappelle notre numéro de téléphone le 50 40 51 41 059 depuis la Suisse. Radio Pleine Lune 3.8 MHz, Onde Femme, Radio Zone, nos nouvelles. La France pousse un cri d'alarme, trop d'enfants battus, plus de 20 000 cas de violence sur mineurs. Une étude de l'Office des mineurs estime que 65 mineurs se trouvaient en situation dangereuse dans leur famille en 1995. Parmi eux, 20 000 enfants sont maltraités. L'augmentation du phénomène, plus de 18% par rapport à l'année d'avant, s'explique par une prise de parole des victimes et de leur entourage, par une meilleure efficacité du dispositif de protection de l'enfance qui permet de détecter les cas. Mais l'audace incrimine surtout l'aggravation de la crise sociale, la montée du nombre d'enfants qui souffrent de négligences graves et de violences psychologiques. Plus de 45 000 l'année dernière est d'autant plus inquiétante qu'elle touche des enfants de plus en plus jeunes. En effet, c'est donc aussi la misère qui accentue le problème des enfants maltraités et la pauvreté touche de plus en plus durement les enfants et les moins de 25 ans. L'analyse statistique des cas traités en 95 par le Secours catholique dresse un tableau de plus en plus lourd et inextricable de leur situation. Ce n'est pas le nombre d'enfants de jeunes confrontés à la pauvreté et à l'exclusion qui est en progression, mais la dégradation alarmante de leurs conditions de vie. Des conditions qui découlent en premier lieu de celles de leurs parents, bien sûr, puisque plus d'un million 800 000 personnes, dont plus de 800 000 enfants de moins de 18 ans, ont été accueillis par les bénévoles de l'association. C'est un chiffre en hausse de 3% par rapport à l'année d'avant. Les enfants sont concernés dans 52% des cas. L'isolement et la solitude croissante des femmes en difficulté, dans 3 cas sur 4, il s'agit de femmes seules, avec ou sans enfants, contribuent à aggraver la situation des plus jeunes, note le Secours catholique. Et pour mettre en exergue ce problème, un procès qui vient de se terminer devant les assises du Vaucluse, on jugeait une femme et un beau-père qui avaient violé une petite fille depuis l'âge de 6 ans. Et en effet, Vanessa, depuis 6 ans, était en proie à sa mère et à son beau-père qui la forçaient à participer à leur ébat sexuel qu'ils filmaient par ailleurs. La mère a expliqué « On a fait ça pour Vanessa, pour son éducation, pas pour nous, même si on y a pris parfois du plaisir. C'était toujours pour lui enseigner quelque chose. J'ai voulu enseigner ma fille et je suis peut-être allée trop loin. Je ne sais pas, lâche la mère. » Voilà un cas d'éducation sexuelle pas très bien comprise. Des femmes de plus en plus nombreuses dans les mouvements islamistes sans armée, comme en Algérie et au Soudan, les islamistes égyptiens recrutent de plus en plus de femmes. Plus discrètes que les hommes, elles se sont spécialisées dans la transmission d'informations et le trafic d'armes. Les chefs terroristes ont donc commencé à enrôler des femmes dans leur organisation, considérant qu'elles ne faisaient pas l'objet d'une surveillance aussi sévère que les hommes. Pour ces terroristes, il est en effet plus facile d'infiltrer des femmes dans certains endroits sensibles ou certaines administrations. Elles sont particulièrement efficaces quand il s'agit de transmettre des informations ou de transporter les fonds indispensables à une opération militaire. En Algérie, des brigades de femmes terroristes sont ainsi apparues au sein de la branche armée du FIS, l'armée islamique du Salut, ELAIS. Au Soudan également, Hassan El-Tourabi en a engagé dans son Front National Islamique. En Égypte, enfin, des phalanges de femmes extrémistes ont pris une part active dans certaines opérations violentes. Elles ont aussi joué un rôle déterminant dans la réorganisation des mouvements fondamentalistes. Le plus étonnant, c'est que les émirs à la tête de ces groupes extrémistes se sont entendus sur une fatwa qui autorise les combattantes à revêtir des vêtements occidentaux suivant le principe que nécessité fait loi et rend possible l'illicite. Les moudjahidates, commandant les combattantes, sont ainsi autorisées à retirer leur voile et adopter des tenues occidentales, afin de ne pas éveiller les soupçons. Certains repentis, au moment de leur arrestation, affirmaient que les organisations extrémistes servaient souvent des femmes pour fournir à la population une aide sociale, de la nourriture ou des biens de consommation vendus à des prix dérisoires ou même offerts. Elles ont aussi fondé dans les quartiers populaires des caisses d'aide aux déshérités financées par des riches sympathisants et par des quêtes. C'est au travers de ce type d'association qu'elles assurent la subsistance des familles des terroristes emprisonnés. Mais l'un des rôles principaux de ces militantes reste d'acheminer des ordres depuis les prisons où croupissent les dirigeants jusqu'à l'extérieur. C'est là le rôle important des épouses, des sœurs, enfin de toute la famille. En France, des ouvrières délogées par la force de l'usine qu'elles occupent depuis plusieurs mois. C'est mardi matin que l'expulsion s'est faite au petit matin par un escadron de gendarmes mobiles qui est violemment pénétré dans l'usine occupée depuis des mois par les ouvriers et les ouvrières. Ils sont rentrés par les côtes, ils ont cassé les fenêtres à coups de hache, ça devient une habitude. Le dernier carré, donc des salariés, en majorité des femmes, conduites par Noël Grimm de la CGT, délégué de la CGT, a donc dû vider les lieux de l'usine qu'elles occupaient depuis plusieurs mois. Elles ont pourtant emporté leur trésor de guerre, les stocks de l'épée estimés à 2,5 millions de francs cachés quelque part et que les huissiers recherchent pour rembourser les créanciers. L'histoire a commencé de cette usine qui fabrique donc des horloges de luxe très bien connues puisque ces horloges sont offertes en général par le président de la République et par Jacques Chirac en particulier à tous les chefs d'État en visite. C'est donc le 4 janvier que cette usine qui se trouve près de Montbéliard a déposé son bilan. Le 11 avril, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire et l'occupation des locaux a commencé. Ça fait donc depuis le 11 avril, que les ouvriers occupent, et les ouvrières surtout, puisqu'une majorité de femmes sont représentées dans l'usine, occupent leur poste de travail. Ce sont des femmes en majorité, déjà grand-mères pour bon nombre d'entre elles, et bien entendu, il devient difficile à plus de 50 ans de retrouver un poste de travail. Après 5 mois de colère, de manifestations, d'aller-retour devant les tribunaux, le liquidateur a obtenu de la justice que les occupants soient expulsés, ce qui s'est passé mardi matin à l'aube. Déjà, elles étaient plus de 600 dans les années 70, pour n'être plus que 69, avec des salaires de misère, puisqu'ils cumulent à 5 700 francs français. Toutes les personnes avaient été licenciées en mai, une cellule de reclassement avait été mise en place, mais bien entendu, il devient très difficile de se recaser quand on a plus de 40 ans. Beaucoup de ces personnes donc ont toujours vécu dans cette usine. Elles sont aujourd'hui découragées, mais une vingtaine d'entités a continué à refuser la disparition totale de l'entreprise. Les stocks, donc évalués à plus de 2 millions de francs, et les plans des mécanismes ont été mis à l'abri. Pour l'instant, ils restent toujours cachés. Au Au Yémen, deux jeunes femmes d'une petite ville du sud Yémen ont été violées et torturées par un policier. Au lieu de condamner ce dernier, le procureur général a préféré mettre en cause leur comportement. C'est ce que raconte le journal yéménite. Les habitants sont alors descendus dans la rue pour manifester leur colère. La manifestation a dégénéré en un vaste mouvement de protestation contre le pouvoir. La ville de Mekla est aujourd'hui, selon le quotidien londonien, en état de sécession. En Roumanie, la prison pour les homosexuels. Les députés roumains ont décidé, à l'initiative du nouveau ministre de la Justice, de rendre passible de prison les relations homosexuelles entre adultes consentants. Le nouveau paragraphe du déjà célèbre article 200 en vigueur depuis l'époque de Nicolas Ceaușescu, l'ancien dictateur, prévoit des peines de 6 mois à 3 ans de prison pour des relations sexuelles entre personnes du même sexe. Un autre paragraphe de l'article prévoit une condamnation de 1 à 5 ans de prison en cas de relations homosexuelles si elles se produisent en public ou si cela entraîne un scandale. Et cet article a été également maintenu. Les parlementaires du Conseil de l'Europe avaient demandé à la Roumanie de dépénaliser les relations entre homosexuels, mais l'Église orthodoxe, très puissante dans ce pays, a été l'un des partisans les plus actifs du maintien des peines contre l'homosexualité, un fléau qui pervertit la société, selon elle. L'orchestre très connu de Vienne, le Philharmoniker Orchestre de Vienne, reste toujours, et encore, interdit aux femmes. La direction de l'Orchestre Philharmonique de Vienne vient de le faire savoir. Il n'est pas question pour l'heure d'accueillir des femmes sur ses pupitres. La menace du ministre autrichien de la Culture de couper les subventions que la célèbre phalange reçoit en tant qu'orchestre de l'Opéra de Vienne si elle s'obstinait dans son machisme d'un autre âge n'a pas pesé lourd. Fort du pouvoir d'attraction que lui vaut sa réputation d'être l'un des meilleurs orchestres du monde, la Philharmonie viennoise tient le couteau par la manche. Du coup, s'il faut en croire une enquête du magazine Profil, l'orchestre viennois se retrouve le dernier parmi les grandes formations mondiales à bannir les femmes de ses rangs. Mais il y a d'autres discriminations que le sexe d'ailleurs, car il faut être mâle bien sûr, mais aussi blanc et si possible viennois. Ce qui rend donc très difficile pour les jeunes femmes de se former à la musique dans la ville de Vienne. Grande victoire syndicale. La Fédération internationale des syndicats libres a mis la Fédération du football sur la sellette pour la question des ballons qui sont des ballons de football qui sont actuellement fabriqués par des enfants au Pakistan et en Inde. La FIFA et les syndicats ont conclu un code de conduite pour interdire le travail des mineurs. Des sanctions sont prévues contre les fabricants rebelles. Les enfants pakistanais et indiens ne fabriqueront donc plus des ballons de football pour les matchs. C'est en tout cas ce que veut obtenir la Fédération internationale de football, la FIFA et les syndicats. Le code de conduite interdit le travail forcé des enfants ainsi que l'exploitation des mineurs. Il appelle à l'égalité de traitement, à des salaires justes et à des conditions de travail décentes, ainsi qu'au droit de se syndiquer et de mener des négociations collectives. Pour que cet accord soit suivi des faits, les inspecteurs approuvés par la FIFA pourront vérifier en tout temps que les fabriques n'utilisent pas des enfants de moins de 15 ans, que les ouvriers ne travaillent pas plus de 48 heures par semaine et qu'ils disposent d'au moins un jour de congé. Les usines pakistanaises, indiennes et autres seront tenues de communiquer diverses informations, telles que l'âge de leurs employés, etc., pour pouvoir avoir un contrat avec la FIFA. Les grandes marques occidentales qui sous-traitent le travail en Asie seront aussi frappées de sanctions si elles ne prennent pas les mesures adéquates pour s'assurer que leurs sous-traitants respectent l'accord intervenu. Le code de conduite conclu entre la FIFA et la Confédération internationale des syndicats libres, ainsi que la Fédération internationale des travailleurs du textile, entend faire figure de précédent. En novembre prochain à Londres, ce code de conduite sera examiné par l'industrie des articles de sport, qui tiendra une conférence spéciale sur le travail des enfants. Les syndicalistes veulent croire que les enfants retirés de la production pourront suivre une formation et qu'ils seront remplacés par des adultes actuellement au chômage. À Paris, épidémie d'intoxication au plomb, le saturnisme qui frappe les enfants pauvres. Bien sûr, le saturnisme, c'est la maladie des enfants pauvres logés dans des habitations vétustes. Elle continue à gagner du terrain dans la capitale, particulièrement dans les arrondissements du nord-est parisien les plus pauvres. Plus de 1600 cas de saturnisme ou maladie du plomb contenus dans les peintures anciennes ont été recensés à Paris. On sait très bien donc qu'est-ce qui se passe. Ça fait depuis 11 ans que le saturnisme infantile est diagnostiqué en France. Ses causes et les moyens de l'endiguer sont parfaitement connus des pouvoirs publics. L'intoxication résulte du fait que la peinture s'écaille, que les enfants la mangent, que ce sont des vieilles peintures qui contiennent du plomb, peintures qui sont interdites depuis 1948. L'éradication du problème passerait donc par le relogement provisoire, ou en tout cas la remise en état de ces bâtiments vétustes. Mais bien entendu, les propriétaires ne font rien. Il faut savoir que cette épidémie est très grave, que le saturnisme est une maladie très très grave. Aux États-Unis, l'épidémie silencieuse a fait des ravages. 3 millions d'enfants sont atteints. L'Italie est sous le choc, et oui, et pour une raison importante, l'élection de Miss Italie. Et parce que, qu'est-ce qui se passe? Cette année, Miss Italie est noire. Pour une fois, ce ne sont pas les mensurations d'une reine de beauté qui auront fait la une de la presse, mais la couleur de sa peau. La candidature de Denis Mendes, 18 ans, originaire de la République dominicaine mais italienne, a provoqué une polémique en Italie après qu'un membre du jury ait déclaré, je cite, « Une jeune femme noire ne peut pas représenter l'Italie parce que les femmes de ce pays ont la peau blanche ». Samedi soir, la belle est montée sur le podium et est devenue Miss Italie. Couronnée au milieu des polémiques et des sifflets, la Miss Italie est noire, a titré le Corriere della Sera, tandis que l'UNITA, proche du Parti démocratique de la gauche, ex-communiste, remarquait satisfait, c'est une tournant, l'Italie a sa première Miss de couleur. Cela démontre que le pays a changé en profondeur et que malgré des épisodes cruels d'intolérance, il se prépare à devenir une société multiraciale. Fin de citation. Les grincheux ont un autre point de vue. Miss Italie est dominicaine, a ironisé il Giornale, pendant que le Messaggero concédait que, je cite, « l'Italie est un pays exotique, mais pas à ce point ». Victoire en Angleterre pour des retraités de la British Gas. Après 10 ans de bataille juridique, 400 femmes salariées de British Gas ont reçu plus de 8 millions de livres, environ 165 000 francs français par personne, de dommages et intérêts pour avoir été mises contre leur gré à la retraite à 60 ans. La Cour européenne de justice a jugé que la compagnie britannique était coupable de discrimination sexiste, les salariés masculins prenant, eux, leur retraite à 65 ans. Le secrétaire général d'Unison, le syndicat qui a porté plainte, a expliqué qu'aucune de ces femmes ne voulait arrêter de travailler. Tout était en parfaite forme physique, elles ont subi un double préjudice, elles ont perdu 5 ans de salaire et autant d'années de cotisation et ont donc une moindre pension. Au Japon, de plus en plus de divorces et les femmes ont l'air de s'en sortir mieux. Le divorce était jusqu'à maintenant synonyme de frustration économique pour les épouses japonaises. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à réclamer un partage égal du patrimoine familial en cas de séparation, une tendance dont la nouvelle mouture du Code civil devra tenir compte. Jusqu'à présent, au Japon, on se mariait sous le régime de la séparation des biens. Dans ce cas, un bien acquis par l'un des époux appartient à celui qui a apporté l'argent. Dans le cas d'un couple où l'homme travaille à l'extérieur et où la femme s'occupe du ménage, le mari est propriétaire de la maison et des économies réalisées durant leur vie commune. Lorsqu'il y a divorce, l'épouse reçoit généralement une part du capital amassé par le ménage, calculée en fonction de la contribution qu'elle a apportée à l'établissement de la fortune. Mais les demandes en matière de pension des femmes au foyer étaient jusqu'à présent raisonnables, 30 à 50% du capital. Or, aujourd'hui, elles tendent à considérer que les biens acquis après le mariage sont la propriété commune des époux. Le nombre de clientes qui viennent me consulter, même dans des cas de divorce par consentement mutuel pour connaître le montant de la somme qu'elles peuvent exiger et pour savoir comment mener à bien les négociations ne cesse d'augmenter, explique une avocate spécialisée dans les affaires matrimoniales. Cette démarche semble encouragée par le fait que la société actuelle a de plus en plus tendance à valoriser le travail non rémunéré, notamment les tâches domestiques. De nombreuses épouses essayent d'obtenir une contrepartie financière pour l'aide qu'elles ont apportée au foyer. Ce principe est valable, quel que soit le responsable de la rupture. Les grandes lignes du projet de loi concernant la révision partielle du Code civil présenté en janvier suggèrent de répartir le capital amassé en tenant compte de l'importance de la contribution des conjoints à la vie commune et de la durée de leur union. Dans le cas où il serait difficile à évaluer la quote-part de chacun, il est précisé que les biens seront partagés en deux parts égales, autrement dit 50-50. L'idée d'une sorte d'indemnité de train de vie, un partage des ressources en vue d'aider financièrement la femme durant quelques années après le divorce, fait son chemin. C'est une disposition spécialement intéressante pour les femmes au foyer d'un certain âge qui pourront difficilement trouver un emploi une fois divorcées. Le nombre croissant des femmes ayant pris conscience de leurs droits risque d'aviver le combat que se livrent les époux au moment de solder le compte de leur vie conjugale. En Suisse, au contraire, les femmes divorcées, elles, sont économiquement défavorisées. Une étude présentée par le Fonds national de la recherche scientifique montre que sur le plan matériel, les femmes divorcées sont plus mal loties que les hommes. Le divorce crée des inégalités. Les femmes sont plus souvent que les hommes matériellement désavantagées après la décision du tribunal. Il y a même des cas de paupérisation grave à la suite d'un divorce. Ce sont les conclusions donc de cette étude. 20 à 40% des femmes sont confrontées à des sérieuses difficultés financières après le divorce. En revanche, les hommes sont beaucoup moins nombreux à avoir ces problèmes. Les jugements étudiés révèlent qu'il y a trois conceptions de divorce. Première, traditionnaliste, qui repose sur les notions de l'ancien droit matrimonial. Deuxième, égalitaire, qui met l'accent sur l'égalité formelle et part d'un principe que l'égalité de traitement entre les sexes doit figurer formellement dans le droit. Enfin, une troisième, compensatoire, qui vise à une compensation des préjudices résultant de la répartition habituelle des rôles dans le couple. Les écarts sont parfois très grands entre le revenu de l'un et l'autre des divorcés. C'est ainsi que dans le cas où la femme ne s'occupait que du ménage et des enfants, elle enregistre un déficit mensuel moyen de 220 francs, tandis que l'ex-mari, lui, dispose d'un excédent de plus de 1700 francs. Le droit de divorce est en révision. L'objet passe au Conseil des États durant la session. Les responsables de l'étude ne sont guère optimistes. La nouvelle loi ne changera rien au fait que les femmes sont matériellement défavorisées dans la pratique des tribunaux de première instance. Le droit ne parvient pas à aplanir les inégalités existantes. Nouvelle-Suisse, à Zurich, s'est ouvert un bordel officiel, bordel légal, qui pourrait voir le jour à Zurich. Une demande de changement d'affectation pour un établissement comprenant un salon de jeu est parue dans la feuille officielle. Une première tentative avait capoté il y a un an et demi en raison d'un manque de financement. Est-ce qu'une femme saisonnière qui rentre pour s'occuper de son enfant a le même traitement qu'un homme saisonnier qui rentre pour faire son service militaire ? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un saisonnier qui rentre faire son service militaire ne perd pas son permis. Le temps passé sous les drapeaux n'est pas compté comme une interruption dans la saison de travail en Suisse et il peut donc, après 10 ans, obtenir un permis B. Tandis qu'une femme saisonnière qui reste au pays pour s'occuper de son enfant, ce n'est pas le cas. L'arrêt qui a été rendu public par le tribunal fédéral. C'était une ex-Yougoslave, une requérante ex-Yougoslave qui avait posé le problème. 3 fois, elle était restée pour s'occuper de ses petits-enfants, 1 fois à cause de la guerre. Mais cependant, le tribunal laisse ouvert la possibilité que, quand même, la maternité puisse être comparée au service militaire, car, disent-ils, si un homme n'a pas le choix de ne pas faire son service militaire, le choix imposé aux jeunes mères d'abandonner leur enfant ou de rester s'en occuper est aussi très pénalisant. Peut-être qu'une autre fois, les choses avanceront. À Genève, la Fondation Sommet Mondial des Femmes a distribué pour la deuxième fois son prix pour la solidarité. Cette fois-ci, c'est à la femme rurale qui a été fêtée. La Fondation Sommet Mondial des Femmes organisait sa première rencontre internationale avec pour mot d'ordre l'accès à davantage de pouvoir pour les femmes et les enfants au milieu rural. Il s'agissait d'honorer le travail de fourmis d'une trentaine de paysannes par la remise d'un prix pour la créativité des femmes en milieu rural. Une cérémonie insolite qui a mis en lumière le combat mené dans l'ombre pour une meilleure éducation contre l'exploitation d'elles-mêmes et de leurs enfants. C'est la deuxième année que ce prix est décerné. Il s'agit d'une petite somme, $500, mais cela peut quand même paraître important dans certains pays où il s'agit presque d'un salaire annuel. Quatre lauréates étaient présentes. La Russe Tatjana Inozemtseva, une paysanne poétesse, Paulina Diaz-Navas du Costa Rica, qui se bat pour rendre les femmes conscientes de leurs droits, Latifa Mebeb Bent Mokhtar, tunisienne analphabète qui recycle les matières naturelles pour en faire des cosmétiques, et la rwandaise Godelière Mukarasari, assistante sociale qui a créé la Sevota, une structure d'encadrement des veuves et des orphelins de la commune d'où elle est originaire. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie de quelques 1200 veuves et de plus de 1000 orphelins ainsi que des centaines de sans-abri. Et pour terminer nos nouvelles, vous savez que le pape va venir en France. Il va fêter le 1500 anniversaire de du baptême de Clovis, de l'entrée de la France dans le giron de l'Église. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très très contents et qui ont commencé à manifester. Ainsi, à Nantes, des manifestants ont troublé le service avec des tartes à la crème. En pleine messe, un commando d'une dizaine d'entartereurs est intervenu et a attaqué à coups de crêpe chantilly les célébrants dans une action qui, selon un communiqué du groupe, préfigure le désagrément qui attend de Jean-Paul II. Le prélat, alors que d'autres membres du commando lançaient des préservatifs gonflés d'eau et des tracts anti-papaux en direction des fidèles avec une grande banderole, des capotes, pas de la calotte. Dans un communiqué, la section bretonne de l'Internationale pâtissière annonce que d'autres messes seront sabotées crémeusement ces prochains jours dans des grandes villes de France en préfiguration des désagréments qui attendent Jean-Paul II s'il ne décommande pas son voyage. Voilà, bon voyage. C'était donc les nouvelles de la pleine lune. Marjolaine s'active, son cœur palpite, il va bientôt s'ouvrir à vous pour ses coups de cœur de la semaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. La poussière et le hasard. J'ai si peur de vos regards. Le soleil et le cafard. Il sera 6 heures du soir. Il sera 6 heures du soir. Vos visages seront noirs. La poussière et le hasard. Ce sera dans le brouillard. Il sera 6 heures du soir. Changeront de trottoir. La.